BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour un débat enflammé autour de David Ricardo. Et puis vous retrouverez ensuite nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim avec sa moisson d'études glanées dans le monde entier, notre bibliothécaire Alexandra Paget, qui nous rappellera un grand événement historique en Allemagne. Et puis, n'oubliez pas, évidemment, nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. On est partout, de plus en plus, si vous voulez le programme, si vous voulez la référence de tous les livres dont nous parlons dans l'émission, allez-y sur nos réseaux sociaux. On démarre tout de suite avec nos auteurs. On remonte le fil de l'histoire économique et politique de la France aujourd'hui dans la librairie de l'écho. Quelles ont été les grandes périodes de prospérité et de déclin de notre pays? Comment se sont forgées au fil des siècles les valeurs économiques et sociales qui font la France d'aujourd'hui? Pourquoi la France est-elle à la fois si semblable et si différente de ses voisins? Pourquoi cette passion pour l'égalité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs? Réponse avec nos deux invités. Jacques Mistral, bonjour.
Bonjour.
Jacques, alors j'ai tout mis sur votre CV. Vous allez voir, il y en a peut-être trop. Vous êtes économiste, vous avez enseigné à Sciences Po, à Polytechnique. Vous avez été le conseiller économique de Michel Rocard à Matignon, puis de Laurent Fabius, ensuite au ministère de l'économie. Vous avez été le conseiller financier à l'ambassade de France à Washington. Vous avez dirigé les études économiques de l'IFRI et vous publiez « Économie et politique en France de la Gaule romaine à 1789 » aux éditions NRF Gallimard. Il y aura bien entendu une suite, Jacques Mistral.
Tome 2.
Prévu pour quand?
D'ici le temps que je l'écrive.
Ah ouais, donc c'est pas tout de suite.
Ah, c'est pas tout de suite.
C'est pas tout de suite. Erwan Lenan, bonjour.
Bonjour.
Erwan, vous êtes consultant, vous êtes essayiste, vous êtes membre de la Fondapol et vous publiez L'obsession égalitaire, comment la lutte pour les inégalités produit l'injustice. C'est aux éditions de la Cité. Alors on va remonter le fil de l'histoire. Donc Jacques Mistral, on commence avec vous. Vous commencez votre livre sur un paradoxe qui est celui qui vous surprend. Vous dites finalement, quand on regarde l'Europe, d'un côté, on a 2000 ans de convergence entre des peuples disparates. Et c'est vrai que finalement, cette convergence vers un modèle d'état de droit démocratique qui respecte la vie privée, les libertés publiques, capitalisme, est quand même assez époustouflant. Et puis de l'autre, vous dites, mais comment se fait-il en même temps qu'il reste autant de différences entre les 27 pays qui font aujourd'hui l'Europe, parce que ils ont tous des différences, c'est 27 démocraties différentes, 27 politiques sociales différentes, 27 rapports entre la religion et les autorités différents. Bref, voilà. On a ce paradoxe européen aujourd'hui.
Oui, c'est un excellent résumé. L'objectif que je poursuis est double. Il consiste effectivement à tâcher de résoudre cette énigme, qui n'est pas une énigme proprement française, même s'il arrive qu'on mette en cause les Gaulois et leurs très bien connus pour expliquer certaines particularités de la France aujourd'hui. Mais en vérité, les Anglais aussi se sentent très exceptionnels, les Allemands également, sans parler des Chinois ou des Japonais, probablement dans leur façon d'évoluer au XXe ou au XXIe siècle. Donc il y a une énigme, n'est-ce pas? Tâcher de remonter assez loin dans les profondeurs des chocs économiques et des aléas politiques qui se sont succédés, des mouvements intellectuels, des mouvements idéologiques et politiques, pour comprendre comment nous sommes français aujourd'hui.
Alors, effectivement, on comprend bien que chaque pays, à un moment, s'est retrouvé devant une bifurcation et que tout le monde a choisi des chemins différents.
Il se retrouve souvent devant des bifurcations.
Oui, oui, mais ce que vous dites, que j'ai trouvé passionnant, c'est qu'en fait, le cours de l'histoire se forge davantage avec les portes qui se referment plutôt qu'avec les portes qu'on ouvre.
Ah, c'est une bonne façon de résumer. Elle n'est pas de moi, je la réutiliserai. Mais effectivement, je suis persuadé que dans beaucoup de situations...
Elle est dans votre livre, hein, Jacques Mistral.
Pas aussi bien formulé, ah bon Emmanuel. Non, ah, non. Bah,
c'est mon boulot. Il faut bien que je serve à quelque chose.
Voilà. Mais bah, prenez par exemple, il y a quand même des portes qui s'ouvrent ou qui s'entrouvrent. Ouais. Regardez, je passe beaucoup de temps à expliquer l'expérience financière et politique de John Law au début du XVIIIe siècle pour expliquer qu'en fait, John Law a donné un sursis de 60 ans à la monarchie absolue et que ça a donc été une porte qui aurait dû se fermer, celle de, ouais, après Louis XIV, et qu'elle est restée entrouverte.
Alors, je voudrais que vous répondiez à une question, Jacques Mistral, parce que vous avez été proche d'un homme politique français que les Français ont adoré, qui était Michel Rocard. Et on sait qu'il y avait une opposition fondamentale entre Michel Rocard et François Mitterrand, qui était un peu son ennemi en politique. On avait l'impression que Michel Rocard disait « ce sont les forces économiques qui sont plus puissantes que les forces politiques » et que François Mitterrand disait le contraire. Que c'était l'économie, c'était la politique qui était plus puissante que l'économie. Votre livre s'appelle « Économie et politique ». Au fil de l'histoire, qui avait raison finalement ?
Alors là, je ne suis pas, et je pense que le résumé n'est pas bon. Parce qu'à propos de Mitterrand, de dire qu'il était, il s'intéressait, il considérait que c'était la politique, et ce qu'il a appelé à la fin de sa vie les forces vives de l'esprit, ouais, qui commandaient la providence d'une certaine manière, la ouais, nécessité. Et l'économie, effectivement, on l'a vu avec ses mouvements de balancier, ne comptait pour rien. En revanche, le résumé que vous avez donné de Michel Rocard en disant que l'économie comptait plus pour lui, ça c'est faux. Michel Rocard était aussi profondément socialiste, mais il faisait partie de cette histoire du socialisme français qui n'était pas gazdiste, comme on le dit, c'est-à-dire pas centralisatrice, réglementariste, doctrinaire, etc. Et donc il y avait chez lui toujours le sentiment que une politique bien réussie, c'était une politique qui se donnait les moyens économiques de réussir.
Alors, Jacques Mistral, vous avez dit très justement au début qu'on fait beaucoup référence aux Gaulois dans notre histoire. Puisque votre livre s'arrête à 1789, qu'est-ce qui, à la veille de la Révolution, rend la France si différente de ses voisins? Ou pour poser la question autrement, à quoi la France doit-elle finalement ses spécificités? Qui ont été les plus marquants dans cet esprit français?
Bah écoutez, après pas mal de travail, j'ai réussi à dégager deux idées assez simples à ce propos.
Ouais.
Parce que on peut se représenter la situation de la France en fait comme étant décalée par rapport à celle de l'Angleterre et du succès du parlementarisme et du capitalisme, mais décalée aussi par rapport à celle de l'Espagne des Bourbons qui va s'enfoncer dans l'obscurantisme clérical jusqu'à Franco. Donc c'est une voie moyenne, et la spécificité française provient de deux facteurs. L'un, c'est la noblesse en France qui, contrairement à la noblesse anglaise, a systématiquement refusé jusqu'en 1830, jusqu'en 1848, de s'allier avec la bourgeoisie. Il n'y a jamais eu cette alliance des élites dirigeantes, ouais, pour mixer l'économie et le politique. Et le second facteur, c'est le fait que, contrairement à l'Espagne, l'Église romaine a été extrêmement puissante, que Louis XIV en a persécuté les protestants, mais que les idées de la réforme ont été reprises au XVIIIe siècle sous une forme plus laïque, on va dire. Mais il y a tout un courant de pensée qui a été extrêmement influent, de la réforme aux philosophes du XVIIIe siècle. Et donc c'est la conjugaison de ces deux facteurs, un socio-politique, un, disons, dans l'ordre des mentalités, qui explique notre position intermédiaire.
Alors j'ai découvert dans votre livre, Jacques Mistral, ce que j'ignorais totalement, c'est que au début de chaque millénaire, il y a eu une formidable période de prospérité. C'est comme ça que vous décrivez, ouais, par exemple, l'époque de la Gaule romaine entre -50 et 250, où vous dites c'était une période de prospérité formidable. Et puis vous dites après l'an 1000 aussi, il y a trois siècles bénis d'évolution.
Bénis peut-être pas, mais de croissance.
Oui, voilà, on va pas s'emballer. Mais où quand même le monde a la France a considérablement évolué. Alors oui, pourquoi, comment, enfin, qu'est-ce qui explique à la fois ces périodes de prospérité et qu'est-ce qui a mis fin à ces périodes?
Alors il y a deux choses là aussi. Il y a d'une part une bonne concordance entre la dynamique économique potentielle et la dynamique politique qui encadre l'économie, évidemment. Donc, en Gaule romaine, ça a été le fait que sur le plan économique, la Gaule a pu s'inscrire dans le vaste ensemble du monde romain. et donc profiter de tous les atouts de...
Une forme de construction européenne avant l'heure.
De mondialisation,
en fait.
Emmanuel. C'était plus, ça allait au-delà de... Ça allait jusqu'en Syrie. On retrouve les poteries de la Grove Zinc, on les retrouve dans tout le bassin méditerranéen. Donc c'est absolument... Et l'origine économique, c'est la productivité agricole. Alors, les calculs d'économistes sont drôles, mais je dis, supposez une villa romaine qui produit une tonne de blé, 1,5% de gain de productivité par an, puisqu'on est sur BFM Business, vous cumulez 0,5% de gain de productivité par an, c'est-à-dire 5 kilos sur une tonne, hein, je suis de balayer un peu mieux, eh bien, au bout de 3 siècles, ça fait 4 tonnes de blé. La production a quadruplé. Donc l'économie, en lien avec le monde romain, la politique de l'Empire romain. Et pour l'essor médiéval, c'est tout le contraire. C'est à ce moment-là le fait que dans le grand effondrement de l'Empire carolingien, il ne reste plus rien après Charlemagne. Ouais. Il n'y a plus aucune organisation, plus d'économie, plus de pouvoir, plus de justice. Et ce qui renaît, c'est le seigneur, c'est la seigneurie. Et là, de nouveau, on se trouve, comme à l'époque des villas, d'une certaine manière, avec des puissants, les seigneurs, qui ont le pouvoir politique, parce qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de monarchie, et le pouvoir économique, celui d'exploiter les paysans. Et c'est la conjonction de ces deux qui fait naître une espèce d'économie décentralisée, pré-capitaliste évidemment, qui n'a rien à voir avec le capitalisme, mais dans laquelle il y a une motivation et une possibilité de faire prospérer l'agriculture.
Parce qu'il y a eu aussi il y a eu aussi d'autres périodes où la France était grande sur le plan politique, militaire,
oui.
Mais où, sur le plan économique, c'était la Bérésina.
Ah ben là, c'est Louis XIV, hein. Ouais. C'est Louis XIV, et c'est la grande différence entre le colbertisme, le mercantilisme colbertiste, et le mercantilisme anglais, c'est que le mercantilisme français, celui de Louis XIV, celui de Colbert, a consisté à surexploiter la paysannerie, qui n'a pas eu les moyens de se moderniser. Et c'est pour ça qu'à la fin de Louis XIV, l'agriculture est ruinée, contrairement aux deux épisodes que vous venez d'évoquer.
Est-ce que la Révolution française est une convulsion, Jacques Mistral, ou est-ce qu'au contraire, elle a des racines profondes? Vous écrivez dans votre livre, en fait... Elle aurait pu avoir lieu en 1719, la Révolution française.
Oui, parce que le cheminement normal de la monarchie au XVIIe siècle, donc après Henri IV, Louis XIII, le cheminement logique était celui d'un renforcement du pouvoir central. Parce que après les guerres de religion, tous les peuples européens souhaitaient avoir la paix religieuse. Et donc, c'était après l'époque féodale qu'on a évoquée, c'était l'époque de la monarchie absolue. Mais cette monarchie absolue, elle peut évoluer de deux manières différentes. Il y en a une qui a été celle de la Révolution anglaise, des deux révolutions anglaises, 1648-1688, qui se conclut par le compromis entre l'aristocratie, le roi, le parlement bourgeois. Et puis, en France, l'absolutisme poussé à son extrême par Louis XIV, et qui trouve dans John Law, que je mentionnais tout à l'heure, une espèce d'exutoire, de planche de survie.
Jacques Mistral, pour faire la transition avec le livre d'Erwan Lenant, cette passion française pour l'égalité, est-ce qu'elle existe déjà avant la Révolution française, ou est-ce que c'est vraiment un marqueur qui date après la Révolution ?
Je pense que l'essentiel, si je peux répondre pas avec une proportion, l'essentiel est postérieur à la Révolution française. Mais beaucoup d'auteurs défendent, non sans raison, l'idée que le Moyen-Âge était une période dans laquelle les pratiques collectives étaient extrêmement répandues, les révoltes contre les prélèvements excessifs des puissants étaient extrêmement violentes. Donc il y a une souche profonde, comme je pense dans tous les peuples européens, pour le coup, et qui n'est pas spécifiquement française. Donc ce terreau, assez répandu en Europe, a ensuite connu avec les philosophes, effectivement, et la Révolution française, un terrain particulièrement propice.
Alors, Erwan Lenant, vous soulignez dès le début de votre livre ce paradoxe français, une obsession qu'on ne retrouve nulle part ailleurs pour la lutte contre les inégalités, dans un pays qui est pourtant l'un des moins inégalitaires.
Absolument. Alors, l'obsession pour l'égalité, elle n'est pas... La passion de l'égalité, elle n'est pas proportionnellement française. La proportion avec laquelle elle est poussée, elle a, je crois, quelque chose de spécifiquement français. Et effectivement, ce qui me semble pareil, c'est le constat de départ du livre, ce qui est particulièrement paradoxal en France, c'est que, comme vous le dites, et ce que montrent les statistiques de manière objective et relativement incontestable, c'est que non seulement les inégalités ont considérablement baissé dans le monde et dans l'histoire depuis deux siècles, à peu près depuis l'époque du libéralisme économique né, je le fais très schématique et sous le contrôle de quelqu'un qui s'y connaît bien mieux en histoire économique, mais depuis la Révolution et les révolutions démocratiques, non seulement elles ont baissé, et en plus en France on est aujourd'hui à un niveau d'inégalité qui est bas, historiquement, et qui est bas aussi par rapport à aux pays voisins. Les différents indices montrent qu'en termes de revenus, entre les plus défavorisés et les plus favorisés, on a un niveau d'inégalité qui est beaucoup plus faible, plus faible, voire beaucoup plus faible que dans les autres pays développés.
Est-ce que c'est parce qu'elles sont plus faibles qu'ailleurs qu'elles sont plus insupportables? C'est un paradoxe que vous mettez en avant.
Je pense qu'elles sont plus insupportables parce que ce qui est lié ce qui explique cette faiblesse des inégalités en France, c'est qu'on a une société qui, pour le dire très rapidement, est figée. Pour pouvoir atteindre un niveau d'inégalité relativement faible, on a développé des politiques qui ont pour objectif de caper les citoyens entre deux bornes, pour le dire très rapidement, pas trop éloignées l'une de l'autre. C'est pour réaliser ça, ça a pour effet défavorable d'empêcher la mobilité, de décourager la mobilité sociale. Et donc on a un pays qui est plus égalitaire que d'autres, mais ce que j'essaye de montrer, beaucoup plus injuste, parce qu'il y a moins de mobilité sociale. Et que
pas... Mais est-ce que c'est plus un amour de l'égalité ou une détestation des riches? Ou est-ce que c'est les deux en même temps?
Je pense que c'est les deux en même temps. Alors, je ne sais pas s'il y a... En fait, si c'est une détestation des riches, il y a une part de jalousie. C'est ce que j'explique. Il y a une part de jalousie qui peut probablement s'expliquer historiquement. Mais il y a aussi le fait que dans une société qui est figée, les gens ont le sentiment qu'il n'y a plus de dynamique de croissance globale. Donc, pour reprendre une image que je développe dans le livre et qui est assez connue, c'est celle du gâteau. Si le gâteau a une taille fixe, celui qui prend une part plus grande le fait nécessairement au détriment des autres. Et je crois qu'on est dans une société française aujourd'hui, on dit que si quelqu'un s'enrichit, il le fait nécessairement au détriment des autres.
Oui, et vous avez une phrase, vous dites « l'idéologie égalitaire aboutit à une guerre des miettes ».
Absolument.
C'est-à-dire qu'elle promet plus d'égalité, mais en fait, elle produit toujours plus d'injustice parce qu'elle empêche justement ce gâteau de grossir.
Elle empêche le gâteau de grossir et elle se place dans une logique où la dynamique est celle de redistribuer les parts du gâteau. Et donc, quand en plus on est dans une phase où l'État arrive à un moment où il n'a en plus plus les moyens de redistribuer beaucoup, ben on se bat pour les miettes. Et donc, les politiques qui découlent, je crois, de cette vision très malthusienne de l'économie, c'est soit on limite le nombre de gens qui peuvent venir manger une part du gâteau, donc on a fait les pré-retraites à une époque, on limite l'immigration de travail, soit on fait des parts plus petites pour tout le monde.
C'est ça, en fait, vous dites, en voulant limiter le nombre de riches, la politique de lutte contre les inégalités a ce côté statique. Alors vous dites, effectivement, il vaut mieux en France que Paul touche 25 et Louise 30, plutôt que Paul 35 et Louise 90.
Mais c'est une image, mais c'est effectivement la logique même de lutte contre les inégalités. Là, ce que j'essaye de dire, c'est que ce qu'il nous faut, c'est pas lutter contre les inégalités. Les inégalités, c'est un constat statistique. Et il peut y avoir des inégalités qui sont justifiées, d'autres qui ne le sont pas, et qui sont souvent des discriminations, ce qui est un peu différent. Mais quand on s'obsède pour les inégalités, on cherche plus à réduire l'écart, faire en sorte que les gens soient globalement plus riches, enfin qu'il y en ait très très... Et ce que je dis, il vaut mieux avoir des gens très très riches et que l'ensemble soit plus riche que d'avoir des gens qui sont relativement proches les uns des autres, mais globalement moins riches.
Ce qui compte, Erwan Le Nain, c'est surtout qu'il y ait de moins en moins de pauvres.
Ce qui est de moins en moins de pauvres. Et ce n'est pas en ayant moins de riches qu'on aura moins de pauvres.
Ouais. Ouais, ça, effectivement. Vous faites aussi une espèce d'analyse du projet marxiste et vous dites que c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'en gros, cette politique, finalement, cet objectif marxiste de l'égalité, et ce que vous appelez l'égalité des places, finalement, c'est une promesse qui est une offre politique toujours vivace dans beaucoup de pays, alors que, historiquement, ça n'a jamais été couronné de succès.
Alors, l'égalité des places, l'expression n'est pas de moi. Un certain nombre de doctrinaires de la gauche des années récentes, d'une tendance marxisante, qui est de dire que puisqu'on ne peut plus assurer l'égalité des chances, il faut assurer l'égalité des places. Et donc, c'est bien cette idée de dire qu'il faut que les gens soient tenus entre ces bornes. Et effectivement, ce que j'essaye de rappeler, c'est qu'à chaque fois que ces politiques ont été conduites à leur extrême ou même suivies, on n'obtient plus de pauvres et moins de mobilité sociale plutôt que ce qui ne me semble pas être l'objectif recherché. Comment est-ce qu'on explique ? Ce que j'essaye de dire, c'est que l'économie libérale et la société démocratique, elle est fondée sur la mobilité. Et donc ça ouvre des possibilités extraordinaires. Mais ça conduit aussi à faire peser sur les individus une responsabilité, je crois, beaucoup plus grande que dans les sociétés pré-démocratiques où, en gros, votre sort était lié à la caste où vous naissiez, ou à l'ordre social où vous naissiez, aux décisions divines, enfin, des éléments qui dépendaient pas de vous. Dans la société démocratique, il y a implicitement l'idée que si vous réussissez, c'est grâce à vous, et si vous échouez, éventuellement, c'est aussi en partie grâce à vous. C'est beaucoup plus, moralement, beaucoup plus difficile à assumer, je crois. Et il y a une demande de sécurité dans les sociétés démocratiques. Et les programmes conservateurs comme marxisants ont comme réponse de dire, si vous mettez nos politiques en œuvre, eh bien on va être dans une phase de stabilité, une société harmonieuse, et c'est très séduisant intellectuellement. Ce que j'essaye de rappeler, c'est que en fait, ça ne peut pas marcher, ce n'est pas compatible avec une dynamique méritocratique et démocratique. Une société démocratique et libérale, c'est une société qui est profondément incertaine. Ça a des mauvais côtés, ou des conséquences négatives, mais ça a aussi des côtés extraordinaires en termes de richesse, d'opportunité, de créativité.
Le résultat, Erwan Lelan, c'est qu'il y a quand même beaucoup de confusion aujourd'hui dans les esprits entre, d'un côté, inégalité et discrimination, entre égalité et équité. Les nuances sont assez subtiles et malheureusement, elles ne sont pas souvent faites. Hein.
Alors, elles ne sont pas souvent faites. J'essaye de le faire un peu dans le livre, mais je suis assez modeste sur les conséquences, sur l'effet qu'il aura sur les mentalités. Effectivement, je pense qu'on confond dans le discours général inégalité et injustice. On confond égalité et uniformité. On confond égalité de droit et égalité de fait. Et c'est des confusions qui ont été entretenues par tout un discours politique sur les dernières décennies, quels que soient les camps politiques, je crois, parce qu'il y a aussi une forme de simplicité à promettre la dépense publique pour assurer l'égalité, plutôt qu'à dire on va s'engager dans des politiques de mobilité qui supposent, pour être mises en œuvre, des réformes structurelles.
Mais d'ailleurs, justement, est-ce que c'est pas ça la clé, la mobilité, plutôt que l'écart absolu, enfin le niveau d'inégalité ? En fait, s'il y a cette mobilité, mais ce qu'il n'y a plus, ou de moins en moins, est-ce qu'il y a encore un sujet ?
Non, alors moi, l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre, c'est que je suis de conviction libérale, donc très attaché aux questions sociales. Il me semble, certains diraient pourtant, mais moi c'est donc attaché aux questions sociales. Pour moi, le libéralisme, la société libérale, est ce qui doit permettre à chacun de s'accomplir et de réussir sa vie, pour le dire très rapidement, et donc elle suppose une forme de mobilité. Dès lors qu'on s'inscrit dans cette dynamique, les inégalités, ça n'est plus qu'un constat statistique.
En fait, les inégalités ne deviennent insupportables que quand il n'y a plus de possibilité de mobilité.
Exactement, parce qu'alors, elles sont perçues comme des injustices, elles sont perçues comme immuables, ce que souvent elles sont, et les gens qui sont en bas de l'échelle sont convaincus qu'ils n'ont aucune chance d'avoir une forme de mobilité sociale ascendante.
Alors, Jacques Mistral, vous qui avez... penser la politique économique de la France au moment notamment où on a créé le RMI.
Le RMI,
qui était quand même une des plus grandes inventions sociales des 50 dernières années, la CSG.
La réforme des retraites.
Oui, alors vous avez dit déjà qu'il y avait de quoi faire tomber des gouvernements pendant 30 ans. Non, mais c'est surtout que vous avez été aussi un très fin observateur de la société américaine quand vous étiez à Washington. Comment cette question des inégalités, j'ai envie de vous dire, pour nous spolier un peu le tome 2 de votre économie et politique en France, comment cette question des inégalités, vous la voyez aujourd'hui. Est-ce que vous considérez que, après qu'on ait longtemps dit que les inégalités, c'était un moteur de la société, est-ce que oui, on a atteint des niveaux d'inégalités qui deviennent préjudiciables à la cohésion de la société, ou pas ?
Pour le constat et pour la France, je suis d'accord avec ce que vient de dire Erwan Le Doan, c'est-à-dire que nous sommes une société dans laquelle Hervé Lebrun l'a très bien décrit dans un de ses derniers ouvrages, en mettant toutes les données sur la table. Nous sommes l'un des pays de l'OCDE les plus redistributifs, dans lequel les résultats de la redistribution sont les plus convaincants, et l'un de ceux dans lesquels la confiance dans le système redistributif est la plus faible. Ouais. Donc chercher l'erreur. Ouais. Alors j'ai pris conscience de ça aux États-Unis, effectivement, pendant mon long séjour là-bas. Et ce qui est très frappant, c'est qu'aux États-Unis, à un moment donné, j'ai vu simultanément une enquête dans laquelle il était expliqué que 10% des Américains pensaient être dans le 1% le plus riche et 25% étaient convaincus qu'ils le seraient une fois dans leur vie. Ouais. Voilà. En France, au même moment, il y avait une espèce de pessimisme sur les SDF. Il y avait eu une enquête révélant que 35%, je crois, des Français craignaient de finir leur existence comme SDF. Ouais. On n'a jamais fini d'explorer le mystère de cette obsession.
Pour aller dans votre sens, c'est John Steinbeck, donc l'auteur américain, qui expliquait qu'aux États-Unis, de mémoire, citation est qu'aux États-Unis, toutes les personnes pauvres se considèrent ou sont considérées comme un milliardaire ou un millionnaire empêché. Et donc il y a cette idée qu'aux États-Unis, la mobilité est plus forte, même si statistiquement, ce n'est pas nécessairement vrai. Il y a une question de mentalité qui sont très différentes entre les États-Unis et la France en particulier, et même l'Europe de manière générale un peu plus large.
Merci, messieurs, à tous les deux pour ces thèmes qu'on n'a pas fini d'explorer et que nous continuerons à explorer. Je rappelle vos deux livres, Économie et politique en France, une vaste fresque de Jacques Mistral de la Gaule romaine à 1789. Il viendra évidemment quand le deuxième tome de 1789, jusqu'à nos jours.
Jusqu'à l'euro,
sortira. C'est aux éditions Gallimard, la NRF. Et puis Erwan Lenoir, l'obsession égalitaire. Comment la lutte contre les inégalités produit l'injustice. C'est aux éditions La Cité. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho.
La librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Penaouda Abdelhaïm et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et puis Alexandra Paget qui fera part d'un livre, c'est La République de Weimar qui est au menu aujourd'hui. Mais tout de suite on retrouve nos deux critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr, critique en chef des pages livres à Alternative Économique. Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président et animateur de la rubrique livre, lui aussi, à la Société d'économie politique. Nous n'avons qu'un livre au programme aujourd'hui, mesdames et messieurs, mais quel livre ? Alors, tous les deux, Christian, Jean-Marc, vous l'attendiez depuis un moment. Est-ce que j'ose dire que Jean-Marc l'attendait peut-être un peu plus que Christian, puisqu'il s'agit de son dieu, il s'agit de son idole, à Jean-Marc Daniel, David Ricardo. Et donc une biographie qui sort, L'économiste capital par Nicolas Buat. C'est aux belles lettres. Peut-être, alors on va détailler hein, l'œuvre, l'homme, etc. Mais grosso modo, déjà peut-être, allez, un premier sentiment sur ce livre, Jean-Marc Daniel.
Alors je suis un peu mitigé, je ne vais pas dire déçu parce que quand même l'essentiel y est, mais je trouve que l'auteur s'est un peu dispersé. C'est-à-dire que Ricardo, j'allais dire le grand absent du livre, c'est David Ricardo, si j'étais un peu méchant, parce qu'alors on entend parler de Jane Austen, il nous déclare de son amour pour Jane Austen, l'auteur, l'écrivaine ouais. du début du 19e siècle. George Eliot, qui est aussi une écrivaine anglaise, tous ces gens sont estimables, Trollope aussi. Bon, on passe en revue toute la littérature britannique du 19e siècle. On découvre qu'on a droit à une vie de résumé d'Adam Smith, une autre de Liszt et tout ça. Et puis, il y a quand même des personnages dont j'aurais pu penser qu'ils auraient été plus présents. Senior, qui était le premier professeur d'économie, qui s'inscrit dès son premier cours comme étant le grand disciple de Ricardo, apparaît au travers d'une citation de Karl Marx. Mais sinon, on n'en parle jamais. Donc, je trouve que le livre a fait des choix dans la façon de présenter les choses qui s'éloignent un peu trop du Ricardo que je connais et que je pense être celui qui est le plus connu et reconnu dans le monde universitaire et dans le monde plus général de l'économie. Alors, la deuxième chose que je dirais, c'est qu'il y a un parti pris qui est d'essayer d'opposer économie politique à science économique. Donc, on verra dans la conversation. Je trouve ça un peu artificiel. Je pense que les deux sont... C'est deux mots qui désignent quelque chose qui a évolué, mais c'est pas quelque chose qui est opposé. Puis je laisserai le soin à Christian de se poser la question de savoir pourquoi Paul Fabra joue un rôle aussi important dans le livre.
Moi, alors, je crois que j'ai compris pourquoi. Oui.
Ah bah alors très bien. Alors,
je dirais ce qu'il y a dit tout à l'heure.
Alors, juste l'impression d'ensemble, Christian, parce que quand on entend Jean-Marc, on entend bien sa critique, mais on se dit en même temps, est-ce que finalement, si c'était pour répéter tout ce qu'on sait déjà sur Ricardo, c'était.
Mais on ne sait pas toujours tout. Il y a quand même.
Oui, il y a toujours des. On apprend toujours deux, trois petites choses. Moi, je connais. Moi, j'ai jamais lu aucune biographie de Ricardo. Je connaissais rien du tout. Hein, donc,
d'accord.
Mais je suis d'accord avec Jean-Marc. On tourne beaucoup autour du personnage, et en fait, c'est pas une vraie biographie. Une biographie, c'est on va chercher des éléments nouveaux, originaux. On va fouiller à droite à gauche. Visiblement, c'est une biographie de deuxième main. L'auteur a rien cherché du tout. Il a simplement lu quelques petites choses sur Ricardo. Alors, effectivement, moi qui adore Jane Austen, j'étais content de retrouver de Jane Austen, de voir tous les passages qui nous décrit avec moult de détails Adam Smith, mais sur tous les sujets clés, que ce soit sur la vie du personnage ou sur son économie politique, j'ai été extrêmement déçu. L'auteur a tourné autour du personnage, on rentre jamais vraiment dedans. C'est bon. Le grand absent. J'ai bien aimé la remarque de Jean-Marc. Alors, peut-être que malheureusement, le grand absent, c'est Ricardo. Allez,
je vais vous poser une question qui peut paraître stupide, mais est-ce qu'il est question un peu d'économie dans ce livre ?
Ah oui.
Oui.
Il y a
deux chapitres au centre du livre où il revient sur deux notions essentielles qui, pour lui, sont les piliers de l'œuvre de Ricardo. C'est toute la théorie de la valeur, dont il dit qu'effectivement, dans le principal livre de Ricardo, c'est le premier chapitre. Et d'ailleurs, il explique assez bien que Ricardo a du mal à arriver à une conclusion sur ce qu'est la théorie de la valeur. D'ailleurs, son dernier livre, son œuvre posthume, et porte encore sur la valeur parce qu'il n'arrive pas à une conclusion claire et nette de ce que c'est que la valeur. Donc, au bout d'un moment, d'ailleurs, quand on lit le livre de Ricardo, on s'aperçoit qu'à la fin du chapitre, il évacue le sujet en disant c'est pas ça le centre de ma préoccupation. Et donc, la vraie préoccupation, c'est le chapitre suivant du livre, où c'est le partage, la répartition entre les rentiers, les capitalistes et les travailleurs, suivant un schéma qui est assez connu, mais qui est assez bien exposé dans le livre et dont il rappelle quand même vraiment les vrais enjeux. C'est-à-dire que l'obsession de Ricardo, c'est véritablement de dénoncer le rentier, ce personnage qui, parce qu'il est propriétaire, bénéficie d'un revenu et qui voit son revenu s'accroître au fur et à mesure que la population augmente. Et il dit bien que Ricardo, en plus, est gêné par ça parce que le rentier, il est propriétaire. Et que Ricardo n'a pas l'intention de porter atteinte au droit de propriété. C'est-à-dire que l'origine de l'avantage du rentier, c'est qu'il est propriétaire. Et pourtant, Ricardo considère que le droit de propriété est un élément constitutif et fondamental de la société civile. Et donc là, c'est assez bien exposé. Et donc là, c'est ce qui sauve pour moi le livre, c'est ces deux parties où il et en plus il compare les idées de Ricardo aux idées de son époque, c'est-à-dire aux autres personnes qui ont mis en avant effectivement ces enjeux. Et après, en découle les histoires du libre-échange, de l'impôt et tout ça. Mais vraiment, cette partie sur valeur et partage de la production entre rentiers, capitalistes et travailleurs est bien menée et véritablement rend vraiment hommage à l'œuvre de Ricardo.
Christian Chavagneux.
Je me demandais toujours pourquoi j'avais du mal à comprendre le chapitre sur la valeur. Et en fait, j'ai compris. C'est parce que Ricardo non plus, il n'a pas compris ce qu'il écrivait sur la valeur. Et donc, ça m'a rassuré. Ouais. Et l'auteur nous dit, d'ailleurs, Ricardo a beaucoup de mal à écrire. En fait, il a du mal à accoucher de son livre. À un moment donné, même, le livre a failli ne pas du tout être publié. Il a fallu que ce soit ses amis qui disent, James Mill, qui disent, mais si, allez, je vais t'aider, on va le reprendre. Tu vas publier ton truc. En fait, Ricardo a beaucoup de mal à écrire. Et donc, quand il se lance sur la valeur, effectivement, on doit attendre Piero Sraffa plusieurs siècles après pour boucher les trous et dire en fait, ouais, ce que Ricardo aurait pu dire pour aller jusqu'au bout, c'est ça. Sur le profit, moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de pages qui sont consacrées à Fabra. C'est que sur le profit, c'est pas très clair non plus chez Ricardo. Donc, il va falloir aller chercher plusieurs siècles après Paul Fabra, qui en s'inspirant des thèses de Ricardo, va développer une histoire et une compréhension du profit qui vont faire que. Et puis, il y a quand même. Ricardo, si on le connaît que pour une chose, même si on connaît rien Ricardo, c'est des avantages comparatifs. Et ces fameux exemples de l'Angleterre, du Portugal, du drap et du vin. Mais pourquoi est-ce que Ricardo, il a pris ces deux pays et ces deux produits ? Mais c'est pas un hasard du tout. Et là, l'auteur nous dit rien sur ce qui est la clé, quand même, un peu de ce qui est de l'héritage de Ricardo. Pourquoi il a pris ça ? Parce qu'il y a un traité de libre-échange entre l'Angleterre et le Portugal, ce qu'on a appelé le traité de Methuen. Et Ricardo n'en parle pas, mais on sait qu'il a lu Smith, et Smith en parle beaucoup, donc il le savait. Et l'auteur nous dit quand même, non, c'est pas une histoire de un jour c'est le Portugal qui est en excédent sur les Anglais grâce au vin, un jour c'est. Non, les Anglais ont toujours été en excédent sur les Portugais. Et pourquoi ? Parce que les Portugais se sont fait avoir. Et pourquoi les Portugais se sont fait avoir ? Parce que les Anglais ont dit écoutez, vous allez ouvrir votre marché
ce qu'on appelle le drap, c'est-à-dire le textile anglais en général. Et en échange, je vous assure une chose, c'est que vous aurez toujours des droits de douane sur votre vin qui sont inférieurs de 30% aux droits de douane français. Donc les Portugais ont dit, c'est super, on va prendre le textile britannique, mais nous, on sera toujours plus compétitifs que les Français. Qu'ont fait les Anglais ? Ils ont augmenté considérablement les droits de douane sur les vins français, ce qui fait que même 30% en dessous, c'était bien trop cher pour les Anglais d'acheter du vin portugais. Donc personne n'a acheté le vin portugais. Par contre, les Anglais avaient gagné le libre-échange pour le textile britannique. Et donc là, on n'est pas du tout dans les lois de l'économie. On est dans des rapports de force, politiques. Tout ça étant lié à la succession du trône d'Espagne. On voit bien que ce que Ricardo nous dit, oh mais je vais vous décrire les lois naturelles. Alors l'auteur nous dit en introduction, Ricardo, c'est vraiment l'auteur qui est neutralité axiologique. Alors, il ne prend jamais parti politiquement. Mais Jean-Marc l'a dit. Un coup, c'est les propriétaires. Un coup, c'est les rentiers. Là, il se bat entre il fait rentrer la géopolitique entre deux pays. Donc, Ricardo, c'est quelqu'un qui a fait de la politique en permanence. D'ailleurs, moi, j'ai appris que... Bon, on sait, moi je savais qu'il avait été élu député. Je me suis trompé, parce que j'ai appris dans le livre qu'il n'a pas été élu député. Il a acheté sa circonscription.
Oui, à l'époque, on a acheté le...
En
Irlande, où il n'a jamais mis les pieds.
En Irlande, où il n'a jamais mis les pieds. Voilà. Donc alors, on est vraiment à côté de la plaque. Et juste fini, mais là, avec un truc... Moi, j'aurais voulu quand même que l'auteur revienne sur dans sa grande histoire de la pensée économique. Schumpeter parle de Ricardo, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Et il parle du vice ricardien. C'est quoi le vice ricardien pour Schumpeter ? C'est cette capacité de Ricardo à prendre des hypothèses complètement irréalistes qui sortent de nulle part et à en tirer des conclusions pratiques pour aujourd'hui. Et c'est ce que Schumpeter dit. Ça, c'est le vice ricardien. Il ne faut pas faire ça en économie. Malheureusement, c'est un peu ça qui est devenu l'économie.
Mais alors, ça me rassure un peu parce que... D'abord, on va dire un mot quand même sur Paul Fabra parce que vous l'avez cité sans dire qui il était. Et je ne suis pas sûr que les jeunes générations qui nous écoutent sachent qui est Paul Fabra. Moi, je vous donne une expérience personnelle. Pourquoi j'ai fait des études d'économie ? C'est parce que donc Paul Fabra, qui était un grand éditorialiste du quotidien Le Monde sur l'économie, je n'arrivais pas à comprendre ses éditos. Je me suis dit, je vais faire de l'économie. Et plusieurs années d'études économiques plus tard, je n'ai toujours pas compris les éditos de Paul Fabra. Donc si vous me dites qu'il a rajouté de la complexité à la complexité ricardienne, c'est quand même dommage. Pourquoi Paul Fabra est-il aussi présent dans ce livre?
Alors, c'est ça qui est assez curieux, parce qu'effectivement, dans la liste des gens qui sont les disciples de Ricardo, et de ceux qui ont... Parce que, contrairement à ce que dit Christian, c'est assez clair à la fin, Ricardo, il y a quand même des... Alors, effectivement, il fait de la politique, donc il est plutôt dans le réel, hein, et il fait de la politique pas n'importe où. Il est à la gauche de la gauche, enfin, il est proche du parti Whig, qui va devenir le parti libéral, et qui est l'aile gauche de la démocratie anglaise, telle qu'elle fonctionne avant 1830. D'ailleurs, là aussi, le livre nous perd dans la façon dont a été réformé le système électoral en 1832, c'est-à-dire 9 ans après la mort de Ricardo. Donc, ça ne le concerne pas directement. Mais non, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Paul Fabra, pour lui, c'est un des personnages, et donc Christian l'a dit, c'est un des personnages qui, par l'intermédiaire de ses articles dans Le Monde, a rendu à la fois lisible, compréhensible, et réactualisé la pensée de Ricardo.
Oui, c'est là où j'en
Quand on lit, d'ailleurs, il fait allusion non seulement à ses articles, mais à Florilège, qui est devenu l'anticapitaliste, c'était le livre de référence de Paul Fabra. Paul Fabra insiste davantage dedans sur tous les aspects finances publiques, sur le fait que, effectivement, sur ce qui est devenu l'équivalence ricardienne, c'est-à-dire sur le fait que, de toute façon, tout financement de l'État par l'impôt ou par l'emprunt est un prélèvement sur la richesse, et sur le fait que, d'une certaine façon, l'État, grosso modo, est un destructeur de richesse par rapport
au... Ce que Ricardo n'a pas écrit. Hein. Ricardo n'a jamais écrit sur l'équivalence ricardienne.
Il a écrit, pas sur la version de Barrault, sur les anticipations rationnelles, il n'a jamais écrit ça, mais il a bien dit quand même que l'État est un prélèvement
sur la richesse. Il nous reste 20 secondes, Jean-Marc Daniel quand même... percer ce mystère. Pourquoi David Ricardo est-il votre économiste préféré ?
Alors c'est mon économiste préféré parce que...
Vous avez 20 secondes.
C'est la rente, c'est la capacité à identifier dans l'activité économique des gens qui sont en capacité parce qu'ils ont réussi à obtenir un droit par l'intermédiaire de l'État, en l'occurrence le droit de propriété, le moyen d'obtenir un revenu. Et donc pour moi, cette vision dans laquelle il y a des gens qui, par le droit, réussissent à accaparer une partie de la richesse sans avoir à fournir du travail ou sans prendre de risques, ça me paraît d'une pertinence et d'une clarté absolument incroyable.
Universel.
On n'a pas parlé de Ricardo le financier, c'est dommage qu'il y ait plein de choses à dire et malheureusement l'auteur passe à côté encore une fois.
Bon.
Et il ne nous parle même pas de la géologie qui était aussi un des éléments clés de Ricardo.
Sa passion ?
Oui. Il avait une collection, de roches qui sert encore de référence.
Vous n'avez jamais écrit de biographie de David Ricardo ?
Mais ça me tente maintenant.
Voilà. Eh ben, écoutez, on prend rendez-vous. Merci beaucoup à tous les deux pour cette exégèse très complète autour de ce livre de David Ricardo, contrasté. Donc, si j'en crois vos avis, eh bien, on se retrouve tout de suite avec notre bibliothécaire, Alexandra Paget.
BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Avec Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour. Bonjour Alexandra.
Bonjour Emmanuel.
Alexandra, journaliste à la rédaction de BFM Business. Alors Alexandra, quand arrête-t-on notre machine à voyager dans le temps aujourd'hui ?
1923.
100
ans. Un siècle. La République de Weimar. L'année où l'hyperinflation ruine le pays. L'année du putsch de la brasserie fomentée par Adolf Hitler à Munich. Putsch raté, rappelez-vous.
Et cette Allemagne de Weimar, comment l'historien Christian Bechler nous la raconte-t-il donc dans son Allemagne de Weimar ?
Alors Christian Bechler, il est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Marc Bloch de Strasbourg. Il nous rappelle que cette république s'est mise en place après l'abdication de Guillaume II, à la fin de la Première Guerre mondiale, avec les réparations de guerre imposées à l'Allemagne par le traité de Versailles en 1919. Le pays est exsangue, l'hyperinflation gangrène le pays. Fin 1923, il affiche une progression hallucinante de près de 17 millions de pourcents.
Incroyable, incroyable. Alors le plus intéressant, Alexandra, c'est la façon dont Christian Bechler nous raconte finalement la politique qui est mise en place à l'époque pour venir à bout de cette inflation.
Lorsqu'il est nommé commissaire à la monnaie de la République de Weimar en novembre 1923, je vais essayer de prononcer son nom correctement, Hjalmar Schacht va prendre des mesures radicales. Interdire aux agents privés d'imprimer des billets. Stricte limitation du crédit bancaire pour réduire le stock d'argent en circulation. Et surtout, création d'une nouvelle monnaie transitoire, le Rentenmark, dont la valeur est gagée sur le capital industriel et foncier du pays. La confiance se rétablit et l'hyperinflation disparaît. Le Reichsmark, nouvelle monnaie officielle, est créée dès août 1924. Le docteur Schacht, nommé gouverneur de la Reichsbank en janvier 1924, gagne la bataille. Mais les épargnants allemands ont été ruinés. Et le traumatisme, Emmanuel, de cet épisode reste encore très présent dans la mémoire collective outre-Rhin, expliquant les réticences de l'Allemagne vis-à-vis des politiques monétaires qu'elle juge laxistes.
Et oui, ça laisse des traces, évidemment, une telle épreuve. Merci beaucoup, Alexandra Paget. On retrouve tout de suite notre globe-trotteur, Benaouda Abdelhaim.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs.
Cher Benaouda, bonjour.
Bonjour.
Benaouda, on démarre notre tour du monde hebdomadaire par l'Allemagne. Est-ce qu'il est plus facile que par le passé ou pas de devenir propriétaire outre-Rhin ?
Eh bien, c'est un démenti circonstancié à ceux en la matière qui, en Allemagne, prétendent que c'était mieux avant. Au contraire, document de recherche rédigé par le principal économiste de l'immobilier à l'Institut économique allemand IW, basé à Cologne, nous le dit. Il établit que l'acquisition de sa résidence principale aujourd'hui est plus facile en RFA, en Allemagne, qu'en 1980 ou en 1990, même dans cette période de hausse des taux d'intérêt, même avec la flambée des coûts de la construction des tensions sur l'offre. En analysant tous les paramètres, Michael Voigtlander établit que la situation actuelle reste en fait assez comparable à celle du milieu des années 2000. L'auteur a élaboré un indice d'accessibilité à la propriété à partir du coût du crédit sur 20 ans pour un logement moyen, mis au regard de l'échelle des revenus moyens en Allemagne. Il y a une quarantaine d'années, dans la RFA d'avant la réunification, certes, les prix n'avaient rien à voir avec aujourd'hui, mais les taux d'intérêt sous-jacents apparaissaient prohibitifs, dépassant les 10%. Ce n'est qu'à partir du milieu des années 90 que la situation post-réunification s'est détendue, jusqu'à arriver à 2016 où il n'a jamais été aussi facile dans l'histoire contemporaine de ce pays en termes relatifs d'accéder à la propriété. Certes, cela s'est nettement détérioré à partir de 2021, mais ça demeure toujours moins difficile que jadis. L'auteur explique qu'il faut prendre en compte aussi les niveaux d'apport requis, les frais de courtier, les droits de mutation, la hausse des honoraires de notaire, etc. Mais aussi les aides publiques à l'accession. Et en combinant tout ceci, pays, cela nous donne des conditions qui apparaissent finalement moins restrictives qu'il y a 40 ans. L'économiste de l'IW juge ensuite que c'est vers la jeunesse allemande d'aujourd'hui, marginalisée dans l'accession à la propriété, que la puissance publique doit porter ses efforts.
Direction le Tibet, Benahouda. Le Tibet, une nouvelle ligne de front de la ruée vers l'or blanc. De quoi s'agit-il ?
Du lithium. C'est un réseau de chercheurs favorable à la cause dite tibétaine, Turquoise Roof, qui entend démontrer ici le puissant essor du véhicule électrique en Chine, qui est en train de menacer la géologie, le paysage du plateau du Tibet. L'Australien Gabriel Laffitte travaille de longue date sur l'activité minière chinoise dans la région qui se trouve au nord de l'Himalaya, où se trouve 85% de l'or blanc, le lithium du pays. Le minerai qui fait fonctionner, rappelons-le, les batteries électriques. Ce document affirme que les techniques de son extraction et de son traitement sont aussi bon marché en Chine qu'elles s'avèrent polluantes. L'auteur appuie son argumentation sur des données satellitaires, une cartographie précise à partir desquelles il a procédé à des conclusions. Et c'est bien une ruée à laquelle on assiste. D'ailleurs, ce sont des sources publiques. En mai dernier, des milliers d'offres d'investisseurs chinois ont été enregistrées pour pouvoir se lancer dans une nouvelle partie de ce territoire tibétain, avec des prix initiaux dans les appels d'offres qui ont été dépassés des centaines de fois. D'après des études géologique officielle chinoise, il y a plus de 3,5 millions de tonnes de lithium à aller chercher au Tibet et dans deux provinces adjacentes. Dans une localité, par exemple, le numéro 1 chinois des batteries électriques, CATL, s'est vu attribuer des droits d'extraction, alors que les habitants disent ne pas avoir été informés que les pâturages qui sont les leurs avaient été cédés de la sorte. Et d'après l'auteur, les Tibétains qui s'aventurent à manifester leur désapprobation risquent le licenciement, l'emprisonnement, voire pire. Il aborde ensuite toute l'importance stratégique pour la Chine de creuser ainsi ce filon tibétain, dès lors que l'objet pour la deuxième économie mondiale est de consolider une domination qui aboutirait en fait à établir au travers de ce minerai critique une nouvelle norme internationale de l'automobile post-thermique, l'automobile électrique.
Allez, on parcourt tous les continents, Benahouda. Cette semaine, direction l'Afrique du Sud, où on s'intéresse aux mécanismes de la sécurité alimentaire.
Alors, c'est une étude commandée par une chaîne sud-africaine de supermarchés, une étude scientifique basée au Cap, dans un contexte où l'inflation sur les prix s'avère alimentaires là-bas de 8%. Ce document est vraiment particulièrement alarmant. S'agissant d'une économie membre des BRICS, rappelons-le, le groupe des grands émergents. Ces auteurs nous expliquent qu'au moins 49% des habitants de l'Afrique du Sud risquent d'être confrontés en 2025 à la faim. À la faim dans le sens où on ne sait pas vraiment de quoi sera fait son prochain repas. Quatre régions rurales sont les plus affectées, le Limpopo, le KwaZulu-Natal, le Nord-Ouest et Cap Nord, qui sont vraiment les plus exposés. 49%, c'est certes moins catastrophique que les 52% précédemment évalué pour 2025, mais cela dit beaucoup de cette insécurité alimentaire que subissent des pans entiers du territoire, des habitants du territoire de ce pays le plus industrialisé du continent africain. Toujours d'après les éléments présentés ici, plus de 21% des enfants sud-africains de moins de 5 ans en 2025 vont se trouver dans une situation où la malnutrition va provoquer chez eux un retard de développement cognitif et physique, je cite. Sanjif Raghubir, qui commente ici les indicateurs, estime que ces données, y compris dans certaines régions plus prospères, doivent amener le pays, ses autorités, ses forces économiques et sociales à prendre le problème vraiment à bras-le-corps. L'objectif avancé est de lancer un débat national visant à une prise de conscience sur la faim, mais le rapport ne nous dit pas vraiment comment ces intentions pourraient aboutir en si peu de temps.
Passionnant et alarmant. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Christian Chabagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Eh ben, si on peut se passer de David Ricardo, il faut toujours en lire Keats. Et donc, la petite bibliothèque Payot vient de rééditer les trois derniers chapitres de la théorie générale. Ouais. Celui qui porte sur le cycle économique, où Keats nous explique que c'est les anticipations des entrepreneurs qui vont décider du cycle. Sur le mercantilisme, où il nous dit les mercantilistes sont caricaturés comme des protectionnistes, c'est bien plus rusé que ça, la pensée mercantiliste. Et surtout, ça va bien au-delà des abstractions irréalistes de Ricardo, je cite Keats. Et le fameux dernier chapitre dans lequel il dit problème, les deux problèmes du capitalisme contemporain, c'est le chômage et les inégalités. Je vais vous dire comment, ce qu'il faut faire pour essayer de les résoudre. Trois petits chapitres de Keynes, très lisibles, ça se lit très bien. Il faut toujours lire son Keynes une fois de temps en temps.
Jean-Marc Daniel.
Oui, lire le chapitre sur le cycle, peut-être. Les deux autres, qui sont assez connus, on peut éviter. Alors moi, je vais revenir non pas à Ricardo, mais à des exégètes de Ricardo, qui est absent du livre, je le déplore, qui est Thomas de Quincey, qui est un des grands écrivains de du 19e siècle anglais, et qui a écrit un livre sur sa consommation d'opium, et qui est les confessions d'un mangeur d'opium anglais. Et donc, on vient de rééditer cette année, chez Garnier, la traduction d'Alfred de Musset. Et donc, il y a un chapitre qui explique comment le Thomas de Quincey a découvert Ricardo, comment il a été enthousiasmé par la pertinence, l'enchaînement logique de cette pensée, et comment ça l'a incité à abandonner progressivement, se laisser aller autour de la drogue pour se réinvestir sur le plan intellectuel. Et il y a un exposé dans ce livre des théories de Ricardo qui est à la fois clair et écrit par Musset, saisissant.
Il va vraiment être très drogué. Hein.
Dites donc, il n'y a jamais eu de livre d'entretien fictif entre David Ricardo et John Maynard Keynes. Personne n'a essayé cet exercice.
On pourrait. Thomas de Quincey avait fait un livre d'entretien qui s'appelle le dialogue des trois Templiers. Et dedans, il y a effectivement un personnage qui est censé représenter les mercantilistes, les économistes un peu traditionnalistes d'avant Ricardo.
Il y avait eu le souper, vous savez, pièce, avec... Fouché
et
Talleyrand. Bah écoutez, Jean-Marc, c'est bon, écrivez-nous une pièce avec Keynes et
Ricardo.
Et Ricardo, puis vous jouez les rôles, messieurs, tous les deux.
Le tout, c'est de savoir qui se retrouve en enfer ou au paradis.
Allez, moi, j'ai choisi de vous parler d'un livre historique passionnant. Ça s'appelle « Le web français, histoire d'une épopée et de ses pionniers ». Ça raconte 30 ans, finalement, de web made in France, avec tous les personnages qui l'ont façonné, les spécificités du web à la française, des entrepreneurs, des grands patrons, des ingénieurs. C'est une très belle épopée qui nous est racontée ici par Sophie Bramley, Pascal Gaillat et Fabien Soyer. C'est aux éditions Duno. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bien sûr, bonne lecture.